I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, cette semaine, a bien composté son ticket et étiqueté ses bagages pour embarquer sans encombre à bord du dernier train pour Busan du sud-coréen Sang-ho-yeon, film d'horreur à grande vitesse qui a pas mal transporté, oui, le mauvais jeu de mots est totalement volontaire, nos trois camarades chroniqueurs présents autour de la table ici, autant que ces baroudeurs cinéphiles, ce sont Julien Dupuis, salut Julien.
Bonjour.
David Honora, salut David.
Salut Thomas.
Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
Allez, c'est nos ciné, épisode 55 et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Le dernier train pour Busan nous raconte, comme son nom l'indique assez bien, l'épopée des voyageurs du train KTX, le Korea Train Express, à destination de Busan, seule ville sûre d'un pays ravagé par une mystérieuse maladie zombiesque où ils espèrent trouver refuge, mais évidemment ça ne sera pas une promenade de tout repos. Beaucoup d'explosions dans la bande-annonce. Nos trois amis ont vu Dernier Train pour Busan, mais qu'en ont-ils pensé ? David ?
Alors, si c'est moi qui commence, je sais pas.
En l'occurrence, si je te donne la parole, c'est que c'est toi qui commence.
Non, en fait, je suis celui qui a un peu des réserves sur le film. Alors, il y a quelque chose qui m'intéresse et qui m'interpelle dans Train pour Busan, c'est que, en fait, ça se passe dans un TGV. Mm-hmm. Et... Quand je dis un TGV, pas un TGV, juste un train qui va vite, c'est vraiment un TGV. Apparemment, on a vendu le TGV aux Coréens. Et le premier truc quand même qu'on peut regretter, c'est que ce soit pas un film français, en fait. C'est-à-dire que le cinéma français, le cinéma du genre français, peine en fait à...
Dernier train pour Saint-Pierre-des-Corps. Ça serait
cartonné. À investir en fait l'imaginaire de notre quotidien. Et on se dit, on peut rien faire d'incroyable dans un TGV, en fait. Pourtant, si ce film nous le montre, il y a énormément de choses à faire et on va en parler. Le film, et je trouve ça, c'est sa très grande qualité, exploite extrêmement bien et jusqu'au bout du bout tout ce qu'on peut imaginer de faire dans un train comme ça. Et ça va jusqu'à ces fameuses putains de portes qui se ferment latéralement, etc. Il y a la structure des portes-bagages au-dessus des trains, au-dessus des places, pardon. Et je trouve que la manière dont l'espace de ce train est pensé est la grande réussite du film. Après, moi, j'ai été gêné par deux choses. D'abord, la construction et le rythme global du film, que je trouve au bout d'un moment un peu trop étiré. Et j'avais presque l'impression d'être devant une succession d'épisodes de série qui aurait pu finalement s'étendre au-delà de la durée du film, mais qui, pour moi, sur la longueur, sur les deux heures de film, on finit par m'ennuyer. Et la deuxième chose, c'est, je trouve, alors à la fois il y a quelque chose de très intéressant dans la répartition des personnages et dans le fait d'avoir des profils très marqués, très intéressants. On a l'équipe de baseball, le trader, le mari avec sa femme enceinte un peu costaud, les lâches, les courageux, etc. Et autant ça permet de bien faire fonctionner la dynamique et l'enchaînement des différentes séquences. En même temps, on arrive parfois sur des choses un peu trop appuyées, notamment sur le discours sur la culpabilité du trader qui est montré comme en fait t'as vendu les actions de machin, donc c'est ça qui a déclenché l'épidémie. C'est un truc qui est, je trouve, un peu trop appuyé par le scénario.
Et
pardon,
c'est à peine dit hein, dans
ouais mais film. mais il y a quand même des séquences répétées avec son acolyte au téléphone qui pour moi sont un peu trop superflues.
Julien.
Moi, je suis pas d'accord sur les réserves. En tout cas, là où
c'est
il voit
la beauté de cette émission, Julien.
Exactement. Non, mais là où il voit une succession de scènes, un côté un peu sérieux. Moi, je vois de la construction de personnages surtout. C'est ça le truc de Busan, c'est que et c'est ça, c'est là où pêche souvent les films de genre. C'est que pour moi, il y a des vrais beaux personnages et le personnage principal. Et l'évolution et l'arc narratif du personnage principal est magnifique. Et toutes ces péripéties le nourrissent. Et le nourrissent, j'ai envie de dire, intrinsèquement aux règles du genre du film de zombie. Jusqu'à la fin, qu'évidemment, je ne vais pas dévoiler. Mais qui boucle totalement la boucle. Qui est parfaitement logique dans une histoire de film de zombie. Et qui est un accomplissement à la fois terrible et magnifique du personnage. J'en ai peut-être déjà dit un peu trop là-dessus, mais voilà. Et il y a tout ce qu'on retrouve en fait dans les films de zombies, tout ce qu'on aime surtout chez les films de Romero, c'est-à-dire utiliser le film de zombies comme une analyse d'un microcosme social à une époque donnée. Et c'est là où je pense que c'est un film qui appartient vraiment à la Corée, même si ça se passe effectivement dans un TGV français. C'est que je pense que ça parle vraiment de la Corée aujourd'hui et des problématiques de la Corée aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est
des problématiques qui nous sont accessibles.
Oui, complètement, bien sûr, parce que c'est lié au capitalisme très agressif qu'il y a en Corée du Sud, mais c'est aussi un truc qui émane profondément du réalisateur. Moi, j'ai pas vu. Alors, il a fait deux films d'animation, The Fake, que je n'ai pas vu, mais par contre, j'ai vu The King of Pigs, et ce n'est que ça. Ce n'est que là-dessus. Ce n'est que sur la violence des rapports humains dans une société où on t'impose la concurrence comme seul moyen d'accomplissement personnel et d'évolution dans l'échelle sociale. Et ça fait très nettement partie de la Train to Busan, enfin Train to Busan, du dernier train pour Busan, je vais y arriver.
C'est ça.
Et c'est totalement logique aussi dans le film de zombies, où parce que l'homme se retrouve face à une menace comme ça, qui est très bestiale, qui ramène l'homme à sa notion la plus basse et la plus avilissante, et lui-même poussé dans ses derniers retranchements et dans ses dernières croyances. Et ça, je trouve que c'est magnifique. Et au-delà de tout ça, parce qu'il faut quand même le dire, en tant que pur film de genre, c'est formidable. C'est-à-dire que c'est un film qui exploite totalement le concept de base qu'il apporte. Je cherche encore cette expression qui est employée par Brad Bird, qui était employée à l'attention des employés de Pixar quand il a commencé Les Indestructibles. Il disait, il faut utiliser la moindre morceau du buffle qu'on va tuer. C'était un truc qui venait en fait des Amérindiens. Des Indiens plutôt d'Amérique du Nord, quand ils tuaient un animal, il fallait en utiliser le moindre petit morceau. Et moi, j'ai vraiment eu l'impression de voir ça dans Busan. C'est-à-dire que le gars, il a un concept de base, et ben il va essayer d'en tirer le maximum. Et il n'y a rien de qui va tomber à plat, il n'y a rien qui est lâché là-dedans. Non, il va essayer tout le temps d'en tirer quelque chose. Voilà.
Stéphane ?
Il faut aussi dire un truc, c'est que c'est un film qui a. En fait, il faut accepter une. J'ai peut-être exagéré un peu, mais dans certains points, il faut accepter une certaine forme de naïveté en fait dans le truc, parce que c'est un film qui est profondément humain. Donc, et quand je parle de ça, je parle même à la fois dans le genre et à la fois dans les personnages. L'aboutissement, par exemple, du personnage principal, du père de la petite fille, c'est une scène qui est, je vais pas la spoiler, mais c'est une scène qui est très touchante, mais qui est aussi très très naïve en fait dans la façon dont elle est présentée. Mais elle fonctionne effectivement parce que le personnage a été construit, a été ramené à tout ce qu'il a été confronté en fait dans l'histoire, dans ce qui se passe et effectivement dans le contexte social, parce que voilà, tout est là en fait. Mais ça fonctionne aussi dans le cinéma de genre à proprement parler, c'est-à-dire le premier infecté qui monte dans le train, il faut accepter l'idée, parce que en fait c'est un plan comme ça très rapide avec un type qui ne voit pas passer l'infecté et tu te dis mais il est complètement con ce mec. Je veux dire, à ce truc là en fait on serait passé à côté du film, et c'est juste un appel entre guillemets au genre. Qui est tout con, tu coupais la scène, c'était fini, en fait, tu comprenais pas ce qui se passait, quoi. Et pourtant, qui fonctionne, en fait, au final, parce que ça t'apporte tout ce que ça t'apporte dans l'intrigue, voilà.
Je suis pas sûr, d'ailleurs, que les paraboles étaient beaucoup, beaucoup plus fines, raffinées dans les Romero, d'ailleurs, que...
Non, mais d'ailleurs, enfin, après, c'est le seul problème de la Train to Busan, c'est qu'il arrive un peu au bout de ce genre-là. Moi, ce que j'aime bien dans le traitement zombiesque, c'est qu'il vient du cinéma d'animation, et il y a des moments, ça se voit. Par exemple, t'as un infecté qui tombe d'un toit, qui va se casser le bras en fait et qui va l'avoir au-dessus de la tête et qui va commencer à courir. Donc il y a une image à la fois absurde et ridicule et en même temps quand même qui fonctionne en termes de menace et qui rend le personnage spécifique, le zombie spécifique à ce moment-là. Et du coup en fait tu te rappelles de ce personnage-là. Pareil, t'as cette logique de masse de zombie mais qui est quand même représentative en fait. Et c'est vrai, c'est encore un truc d'animation, c'est-à-dire que tu vas avoir un zombie. En fait, tu vas avoir une masse zombie, un zombie qui va passer par-dessus les autres et sauter pour se mettre en avant. Alors que quand tu regardes un Zack Snyder ou un truc comme ça, c'est la même masse uniforme avec les zombies. C'est une menace. Oui, multiplié massive, quoi. Ouais. Là c'est vraiment voilà. Et puis t'as il joue pas aussi sur d'autres problématiques de ah c'est tu sais qu'il y a un truc que tu vois chez Romero par exemple, c'est ah mais c'est mon frère, ah mais c'est ma sœur, j'ose pas la tuer. Oui. Je veux dire les mecs ils sont quand même, t'as pas des persos stupides en fait. C'est ça qui est aussi intéressant dans cette façon d'aborder le genre, c'est que cette naïveté, cette candeur on va dire dans la façon d'aborder le truc, elle vient du personnage principal qui est la gamine pour moi. Clairement quoi, qui est le cœur du film, et donc c'est presque, c'est étrange parce que c'est presque un film de zombies pour enfants, sauf que c'est pas un film de zombies pour enfants puisque c'est quand même assez gore, c'est quand même assez, non voilà, non mais c'est très bizarre comme truc parce que tu dois t'accorder, c'est comme, ouais, je compare, c'est comme Pacific Rim pour moi. Pacific Rim c'est l'histoire d'une gamine à la base en fait au milieu de tous ces robots. Et en fait, s'il n'y avait pas cette scène où elle de la destruction de sa famille au début, en fait, au milieu, dans flashback, oui, oui. Je veux dire, je pense que le cœur du film ne serait pas là, quoi. Et là, c'est un peu la même logique. Si t'as pas cette gamine là, en fait, qui vit toute cette histoire pendant deux heures, je pense que le film perdrait énormément de son humanité et dans son rapport au personnage, parce qu'elle est en fait le ciment dans tous les personnages. Elle est voilà. Et cette approche candide, c'est elle qui l'infuse en fait dans l'intrigue et le réalisateur le suit. Parfaitement, sans se poser de questions, sans remettre ça en forme. Et du coup, c'est ça qui rend le film vraiment touchant et attachant. Mais jusqu'à un point où parce que c'est quand même, on est dans un terrain balisé, on connaît quand même ce genre-là. Il arrive quand même à te surprendre par moments avec certains personnages. Le personnage du père de famille dont tu parlais, enfin le futur père de famille, c'est un peu le prolo, un peu bourru, un peu beauf, qui est super attachant. Parce que ce genre de personnage-là, dans un film américain, t'as juste envie qu'il crève, tu te dis, ok, c'est bon, voilà, non, les mecs, ils rendent le personnage vraiment attachant. Grâce à la gamine, tu vois. Le père de famille, le père de cette gamine-là, c'est pareil, c'est une tête de con. Ça devient un mec qui est incapable de communiquer avec les gens, qui est complètement fermé émotionnellement et qui va s'ouvrir grâce à ça, grâce à sa gamine. Il y a un personnage qui n'est pas dans le film, mais qui est dans le film, en fait, quelque part, qui est la mère de famille, qu'on ne voit pas du tout, en fait, qu'on ne verra jamais, en fait, la mère de la gamine. Et c'est un spoiler sans un spoiler, parce qu'il n'y a pas du tout de problème, mais c'est un truc, mais elle infuse, tu comprends, en fait, que c'est cette personne qui a infusé aussi l'âme de sa gamine, tu vois, dans le film. Donc t'as plein de trucs comme ça en fait qui fonctionnent à des degrés de lecture en fait et qui rendent, moi je trouve, le film extrêmement prenant et touchant quoi. Et cette scène finale qui est pas encore une fois, je spoil pas, tu te dis putain, qu'est-ce qui va se passer, tu étais vraiment dans le truc, et en fait tu es vraiment dans la tension de ce moment là tu te dis est-ce que ça va se passer ou pas. Et
mais ce qui est super justement de la scène finale, c'est que c'est une scène finale sans spoiler encore une fois, mais qui fait référence très clairement à Nuit des morts vivants de Romero, enfin moi il me semble. Et c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans Busan, qu'il faut rappeler, c'est que on est tombé très vite dans l'analyse et la description par rapport à social et machin et tout, qui est là, hein, et c'est bien qu'on en parle. Mais le film même, en tant que pur film de genre, qui s'inscrit dans une histoire de film de genre, est admirable. C'est-à-dire que quand le mec, il te fait cette fin, qui fait référence à La Nuit des morts vivants de Romero, il te parle à toi, qui est amateur de films de zombies, et réussit malgré tout à te montrer un petit truc qui va changer la donne. Et très souvent, il fait ça. C'est-à-dire que ça fait longtemps que j'ai pas vu un film de zombies où on crée des trucs avec les zombies. Comme Steph en parlait tout à l'heure, parce qu'il en a. Mais j'insiste, c'est une super idée, en fait. Le zombie qui a les membres tout désarticulés et tout. Voilà, ça fait plaisir. Il y en a plein des trucs comme ça dans Busan.
David, un dernier mot ?
Non, moi je suis d'accord avec la réserve que effectivement il faut y aller avec une ouverture à cette forme de naïveté qui pour moi m'a un peu détaché émotionnellement du film. Je l'ai pas reçu de la même manière que mes collègues.
D'accord. Dernier train pour Busan, c'est en ce moment au cinéma. Allez-y, vous l'aurez compris, on vous le conseille, même s'il y a quelques réserves, mais c'est normal. Pour conclure, on refait un tour de table pour une petite série de conseils et de recommandations. Comme d'habitude, on va commencer par Stéphane.
Ouais, écoute, alors moi j'ai envie de dire que dans le même genre de film d'action, tu vois, trépidant dans un train, bah, j'ai envie de conseiller Piège à grande vitesse avec le grand Steven Seagal, voilà, avec de Jeff Murphy, Non, c'est pas son chef-d'œuvre. Son chef-d'œuvre, c'était terminé. Mais c'est de la triche, il l'a réalisé. Et le truc, c'est que non, mais ouais, voilà, enfin, Piège à grande vitesse, c'est de la blague, hein, évidemment. C'est pas du tout du niveau Train pour Busan. Mais bon, c'est un film qui a, on peut dire, il a bien écrémé le buffle aussi. Hein. Il a utilisé tout. Steven est très bien utilisé,
Employé. C'est le buffle, Steven, dans l'histoire.
C'est lui. Non, mais voilà, donc il y a plein de répliques cultes. Je sais pas, enfin, tu vois, j'ai envie de te dire, je pense, à mon avis, Dernier Train pour Busan a tout piqué à Piège à grande vitesse. Voilà. qui est un film très, très naïf aussi.
Oui, ça c'est pas faux, c'est une très bonne analyse, ouais. Julien.
Moi, c'est une reco un peu vacharde parce qu'il faut le trouver, mais je vous conseille quand même King of Pigs. Alors, encore une fois, j'ai pas vu The Fake, qui est l'autre film du réalisateur.
Un des films précédents de Sang-Woo-Yeon.
Mais King of Pigs était passé à Cannes, je crois, si mes souvenirs sont bons, et de temps en temps on le voit apparaître comme ça sur des festivals. J'espère qu'il sera un jour distribué en France. C'est un film super intéressant, puis super intéressant quand on aime Le Dernier Train pour Busan, parce qu'il éclaire notamment tout cet aspect social dont je faisais un peu référence. Et c'est un film d'animation, mais vraiment centré sur l'humain. Il n'y a pas d'éléments, c'est un thriller plutôt, mais il n'y a pas d'éléments fantastiques, il n'y a pas d'éléments merveilleux du tout. C'est l'histoire de trois copains d'enfance qui se retrouvent quand ils ont vieilli. Ils cachent un secret extrêmement sombre et extrêmement lourd. Je vous en dis pas plus. Voilà, c'est un film extrêmement noir, extrêmement radical. C'est là où aussi on se rend compte que ce réalisateur-là, là, s'est amusé avec Le Dernier Train pour Busan et qu'il a décidé de faire un film un peu plus populaire et ouvert, mais qu'il a en lui une noirceur que j'espère voir encore se déployer dans des prochains films.
Un prochain film qui est en cours, je crois, qui sortira dans l'année. David, pour terminer.
Et moi, je veux revenir au film de train. Alors, c'est vrai qu'on a. Ça s'appelle Train pour Busan, mais c'est pas tant que ça un film de train. C'est-à-dire qu'on est dans le décor qui se déplace, mais l'essentiel se joue à l'intérieur. Le film se compare pas tant que ça avec d'autres films de train auxquels je pense, qui mettent plus en avant la masse de métal vrombissante jetée à pleine vitesse sur les rails. Il y a pour moi deux films là-dessus à voir absolument. Il y a Unstoppable de Tony Scott et un film qui a dû beaucoup l'inspirer, c'est Runaway Train de Konchalowski. C'est deux films où vraiment
c'est un peu mieux que Piège à grande vitesse.
Vraiment, on sent
mais il y a pas Steven
d'une manière complètement incroyable cette idée, voilà, de la masse de métal qui se déplace et de comment pouvoir arrêter cette saloperie de train qui ne voudra jamais s'arrêter. Et c'est des films très différents de Train de Busan, mais que je conseille également.
Très bien, c'est noté, notre temps est écoulé. Merci à tous les trois, merci à Jules, à la technique, à Iris pour la préparation, au Tank pour l'accueil. Si vous n'avez pas encore fait le tour de toutes nos anciennes émissions, allez donc faire un saut sur notre site nosciné.com, elles y sont toutes, elles vous attendent. On rappelle que Nos Ciné, c'est un podcast du réseau Binge Audio, retrouvé aussi sur binge.audio. On attend vos petits messages qui nous font chaud au cœur à chaque fois et on vous dit à très vite.
Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizi. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à Marvin Gaye et à la Funky Family. Disponible sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine!
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.